L'objectif est de repolitiser, révolutionner l'accompagnement et changer le monde.
Un projet militant.
Comment monter le volume ensemble ?
On va donc déconstruire les normes.
Et je veux que ça change. Je veux que ça change. Chère accompagnante et accompagnant du Turfu, bienvenue à bord, Elsa Coteillé speaking, ton accompagnante vénère préférée, pour un nouvel épisode d'Accompagnante, le podcast qui révolutionne l'accompagnement pour changer le monde. Que cela soit en solo ou avec des intervenantes complices, ici on dit que l'accompagnement est politique et qu'on est là pour faire bouger les choses. Et on t'invite à les faire bouger avec nous et à créer une communauté engagée et fière de l'être. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. On se retrouve de l'autre côté après cette dose de power.
Est-ce que tu t'es déjà senti impuissant, impuissante, face à l'injustice vécue par une personne que tu accompagnes? Est-ce que tu t'es déjà demandé quel était ton rôle, ta place, quand aucune réparation concrète ne vient du système judiciaire? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rêver d'offrir un sentiment de justice à une personne tout en sachant que ce n'est pas en ton pouvoir? Et toi, dans ta posture d'accompagnante, d'accompagnant, qu'est-ce que tu veux défendre? Qu'est-ce que tu veux incarner? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Bienvenue dans la première partie de la table ronde « Laisser la justice faire son travail », enregistrée en public le 24 septembre 2024, dans le cadre du Punchline Festival. Dans cet épisode, j'ai eu la joie et l'honneur de prendre la parole aux côtés de Camille Tisser, Tiphaine Daillot-Tressière et Aurélie Pignon, mes consoeurs du groupe de réflexion Hypnose et Justice. Ce groupe est né d'un élan lancé par Camille après le visionnage du film « Je verrai toujours vos visages » sur la justice restaurative. Et d'une intuition commune, il manquait un espace pour penser les liens entre accompagnement, hypnose et justice, entre ce qu'on propose dans nos cabinets et ce que vivent les personnes dans le système judiciaire. Dans cette première partie, on revient sur la genèse du groupe et ce qu'on y a exploré depuis un an, nos frustrations partagées face à l'impuissance, à l'absence de réparation, à la violence du système judiciaire, ce que ça change de se regrouper pour penser ensemble, sans chercher la bonne réponse ni la posture idéale, la complexité de notre place quand la justice ne fait pas son travail ou ne fait pas le travail qu'on aimerait qu'elle fasse, le poids de la honte, de la culpabilité, de l'isolement, la tentation de la posture de la sauveuse ou de la posture de la justicière et ce qu'on en fait collectivement. On parle aussi de la force de pouvoir être parfois la première personne qui écoute sans remettre en question la parole d'une victime et de l'importance de reposer nos outils pour interroger nos fondations. Pourquoi on accompagne? Au service de quoi? De qui? Et avec quelle valeur? C'est un épisode dense, sensible, politique, un point d'étape dans un chemin encore en cours et qu'on espère fertile pour d'autres et pour nous. Si cet épisode vous parle, vous touche, vous inspire, laissez-lui une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur ma page Google Business Elsa Coteillé. Faites circuler cette table ronde autour de vous. Et si vous le souhaitez, soutenez le podcast via la cagnotte libre. Je vous mets le lien en description. Merci beaucoup aux personnes qui prennent le temps de le faire. Votre soutien compte énormément pour moi. Ce podcast vit grâce à vous, à vos oreilles, à vos partages. Alors, allez-y de bon cœur. Merci d'être là et je vous souhaite une très 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 belle écoute et à votre disposition pour échanger avec vous sur ce qui résonne.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette table ronde donc du Punchline Festival. Aujourd'hui, le thème c'est laisser la justice faire son travail. Et donc, on va plonger ensemble sur cette discussion qui, moi, me paraît essentielle et qui nous paraît essentielle. Quand je dis nous, je parle en fait du groupe Hypnose et Justice qui, depuis un an, réunit un collectif de praticiennes en hypnose créé par Camille Tisser, et qui explore les liens entre justice, hypnose et accompagnement. Et quand je dis justice, je parle de la justice avec un J minuscule et de la justice avec un J majuscule. Je fais la distinction entre les deux. Pour moi, J majuscule justice, c'est l'institution judiciaire. Et justice, c'est la notion de justice en lien souvent avec la notion aussi d'injustice. Donc là, cette table ronde, c'est vraiment l'occasion aujourd'hui pour le collectif de présenter, de partager là où on en est dans nos réflexions collectives et d'échanger avec vous là-dessus. C'est vraiment aussi l'envie de créer un espace de réflexion commun et de partage autour de cette notion de justice et aussi dans le cadre de l'accompagnement thérapeutique, en particulier avec l'hypnose. Mais c'est beaucoup plus large que l'hypnose et je pense que les personnes qui accompagnent ici, même si vous n'êtes pas formé à l'hypnose, vous avez déjà sûrement accompagné des personnes autour de ces notions-là, de justice et d'injustice, ou même de lien avec l'institution judiciaire. Et on espère vraiment que ces échanges vont vous permettre en fait de mieux comprendre comment nous, en tant qu'accompagnantes, en tout cas aujourd'hui, on a réfléchi à un moyen d'offrir un soutien plus juste, plus empathique et plus efficace à celles et ceux en fait qui en ont besoin. Donc là, c'est parti pour une discussion profonde et c'est vrai engagée, parce qu'on n'est pas du tout neutre, on ne va pas du tout parler à partir d'une forme de neutralité. L'idée, c'est au contraire de déconstruire certaines pratiques, certaines manières de pratiquer, pour bâtir vraiment des accompagnements plus éthiques et plus responsables. En tout cas, que nous jugeons en fait plus empathiques, plus éthiques et plus responsables. Au programme, il va y avoir toute la présentation du groupe Ethnose et Justice pour vous vraiment poser le contexte, poser le décor avec vous. Et donc, on va se présenter. On va vous raconter comment on s'est rencontrés il y a un an pour explorer en fait ces thématiques-là. Et donc, pour échanger sur les meilleures façons d'accompagner nos clients et nos clientes face à ces défis-là. On va aussi vous raconter comment on a pu peut-être trouver certaines solutions, certains processus pour déconstruire ce qui nous convenait pas du tout et pour imaginer des formes alternatives de justice dans nos cabinets. Et donc, surtout, on va parler de réparation et de guérison. On va aussi aller sur ces notions-là. On va s'écarter de la notion de justice pour aller vraiment sur ces notions de réparation et de guérison. On va bien évidemment parler des réalités de la justice et de l'accompagnement, puisque on est malheureusement en raccord avec l'actualité. Je pense que vous ne pouvez pas trop ignorer ce qui se passe aujourd'hui dans certains tribunaux de France autour du procès Pellico. Et d'ailleurs, on va vous en parler un petit peu. On est, on reste dans cette notion qu'on n'est pas neutre. Et donc, on est Jessrey, Camille, Tiffaine et Aurélie en parler en leur nom propre. Mais moi, personnellement, je suis assez activée par tout ce qui se passe en ce moment. Ça rejoint énormément de nos réflexions concernant justement la justice et l'accompagnement. Et comment les victimes, surtout de violences sexistes et sexuelles, ne sont pas du tout accompagnées justement par l'institution judiciaire. Et donc, on va en parler rapidement, mais c'est vrai que c'était pas forcément l'objectif d'aujourd'hui. L'objectif, c'était surtout de vous raconter ce qui s'était passé pour nous pendant un an. Mais on ne peut pas ne pas en parler à minima. Je pense que ça va quand même revenir, ça va quand même en fait résonner. Mais avec l'équipe, on s'est vraiment dit qu'on allait sûrement faire proposer une version 2, une table ronde numéro 2 sur ces notions de justice, en prenant le temps de poser aussi notre parole concernant ce que nous, on a ressenti, vu et analysé par rapport au procès Pellico. Et donc, on va aussi parler, mine de rien, de tout ce qui est lié au rôle en fait, des accompagnants et des accompagnantes, pour vous donner des billes, pour vous donner des pistes sur peut-être vos rôles à vous, pour que vous puissiez évoluer là-dessus si vous le souhaitez, tout simplement. On va démarrer par un tour de météo. Déjà, je pense que c'est important. Vous n'êtes pas obligé d'en participer, c'est vraiment plus pour poser l'humanité qui sont les nôtres. Donc, je vais demander tout simplement à Camille, à Tiffaine et à Aurélie, comment ça va. Et puis, on va démarrer ensuite les échanges. Qui veut démarrer? Comment ça va, Tiffaine? Comment ça va, Camille? Comment ça va, Aurélie?
Je peux commencer, si vous voulez. Moi ça va, je me sens un peu stressée parce que c'est la première fois que je me prête à ce genre d'exercice, mais contente d'être là et de retrouver ce groupe avec lequel je me sens bien, et je pense émue aussi parce que c'est un sujet qui me touche et je suis contente qu'on en parle aujourd'hui.
Je prends la suite du coup, Tiffaine. Moi ça va bien, je suis super excitée à l'idée d'être là aujourd'hui et puis de pouvoir parler de tout ça avec vous, et en même temps super vénère J'ai vraiment la rage. Voilà, d'autant plus contente de pouvoir explorer ces sujets-là avec le collectif aujourd'hui.
Et du coup, je prends la suite. Alors moi, stressée aussi, contente de pouvoir, et merci Elsa pour ça, de pouvoir ouvrir cet espace de parole et pouvoir poser des mots sur ces sujets qui nous travaillent et nous questionnent et nous font avancer depuis des mois et qui me semble important d'ouvrir à d'autres et également hyper vénère et hyper activée par tout ce qui se passe actuellement. Donc je vais essayer dans une certaine mesure de contenir ma vénéritude, mais ce n'est pas toujours mon point fort. Je préfère prévenir.
Moi, météo, je pense que vous l'avez senti, je suis assez concentrée et focus parce que je trouve que c'est important tous ces sujets-là et que j'ai envie de faire au mieux. Et excitée parce que je trouve que c'est une super concrétisation qui pose un jalon par rapport à ce groupe de travail. Et aussi hyper activée et vénère parce que j'ai vraiment la rage. Voilà, je rigole, mais c'est un rire nerveux, bien évidemment. Donc, on va passer à finalement à une présentation de Camille, d'Aurélie, de Tiphaine, pour que vous puissiez vraiment comprendre en fait d'où on parle, qu'est-ce qui se passe de nos côtés, de chacune de notre côté. Camille, je te laisse prendre la parole et te présenter.
Merci. Du coup, moi, je suis praticienne en hypnose depuis 3 ans et quelques. Et je vois vraiment mon accompagnement comme un accompagnement féministe depuis le départ. Et progressivement, je le vois évoluer vers aussi quelque chose qui est plus queer. Et je me questionne sur la place de l'antifascisme là-dedans aussi. Donc moi, pour me situer, je suis une personne queer, je suis blanche, j'ai 35 ans. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Et du coup, donc, ce que je propose dans ma pratique, c'est à la fois des accompagnements individuels, mais aussi un accompagnement collectif, donc avec le même groupe qui se retrouve tout le temps, mais aussi parfois des ateliers plus ponctuels. Je travaille essentiellement en ligne. J'anime parfois des ateliers à Lyon, vu que j'y ai passé une dizaine d'années et que j'ai démarré mon activité d'accompagnante là-bas.
Merci Camille.
Alors moi je m'appelle Aurélie, je suis praticienne en hypnose, mais aussi en thérapie brève et systémique, et je suis aussi militante féministe. Alors j'accompagne principalement en individuel pour le moment, même si on en reparlera après, mais j'ouvre un peu mes chakras par rapport au collectif, grâce à vous. J'accompagne les enfants, les ados, les jeunes adultes, les adultes, les couples et les familles. Mon accompagnement est clairement non neutre et féministe, ça c'est posé. En particulier en ce qui concerne les violences faites aux femmes et aux enfants, qu'elles soient individuelles ou qu'il s'agisse de violences ou d'oppression systémique d'ailleurs. Je suis une femme blanche, cisgenre, hétérosexuelle. Je suis maman solo de 2 enfants. Je suis en couple. J'assume et j'apprécie pleinement maintenant de pouvoir situer mon accompagnement comme un accompagnement non neutre et politique.
Et moi, du coup, c'est Tiphaine. Je suis psychologue et également praticienne en hypnose. Moi aussi, je me définis comme une accompagnante féministe et engagée contre les oppressions systémiques de manière générale. Et du coup, pour me situer aussi, moi, je suis une femme cis, blanche. J'ai 26 ans. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Je suis bi. Du côté professionnel, moi aussi, je propose des accompagnements individuels et de groupe. Et aussi des retraites féministes dans le sud de la France. Voilà un peu pour moi.
Merci à vous trois. Et j'aime aussi me prêter au jeu et poser ma parole. Donc moi, je suis Elsa, Elsa Coutelli, je suis une femme blanche, cisgenre, j'ai 35 ans et je suis maman de 2 enfants en bas âge. Donc, je suis une accompagnante engagée et souvent, je dis que je suis même une accompagnante vénère. Pour moi, la colère, en fait, c'est vraiment une émotion que je mets au service de mes accompagnés. Je suis également la créatrice du podcast Accompagnante depuis 2020 et on va dire que j'accompagne en très gros les personnes qui veulent kiffer leur vie sans nourrir le système. Vraiment cette idée-là. Mon approche de l'accompagnement est donc en fait profondément politique et vise à déconstruire les normes pour repolitiser nos pratiques. Et quand je dis repolitiser, c'est surtout en fait, je parle de réhumaniser nos pratiques et surtout en fait nos vies. Voilà. Je vais me tourner vers toi, Camille, à nouveau. Et tu es l'initiatrice du groupe. Et donc, j'avais envie de revenir avec toi sur comment t'es venue l'envie de réunir des accompagnants et des accompagnantes formées à l'hypnose autour de cette thématique d'hypnose et justice. C'est quoi ton point de départ? C'était quoi ton constat?
En fait, c'était il y a un an, je crois, à peu près. J'ai vu le film « Je verrai toujours vos visages ». Je ne sais pas si certaines personnes parmi vous l'ont vu. Et donc, c'est un film qui parle de justice restaurative, enfin réparatrice, suivant dans quel pays francophone on parle, il y a un mot différent. Et en fait, déjà, ce film m'a mis une énorme claque. Et puis, j'ai fait le lien, en fait, après l'avoir visionné avec une formation que j'avais suivie, donc avec Myriam Pradey, si je me souviens bien de son nom. Les constellations familiales intérieures en hypnose. Donc vraiment l'idée de pouvoir utiliser l'hypnose pour venir réparer des choses qui ont pu se réaliser dans la famille, dans l'histoire. Bon, bref, je rentrerai pas trop dans le détail, mais il y a vraiment eu un lien en fait où je me suis dit attends, mais en hypnose j'ai appris un outil pour obtenir réparation. Là, je vois un film où je vois clairement l'effet thérapeutique que la justice restaurative peut avoir. Et je me suis dit, ah, mais il y a peut-être moyen de faire un truc, en fait, un mix des deux. Moi, je ne sais pas réfléchir toute seule, puis j'aime pas, en fait, aussi. Et j'ai vraiment eu envie de retrouver des collègues qui partageaient mes valeurs féministe, quoi. Ça me paraissait déjà être un premier tri intéressant pour aller explorer cette idée de justice, notamment parce que dans mon accompagnement, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont été victimes de violences sexistes ou sexuelles. Donc, explorer ça à travers ce prisme-là me paraissait juste évident et essentiel. J'ai lancé un appel sur Instagram en disant, qui est chaud pour monter ce petit groupe-là, pour qu'on discute. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas trop de projets, mais plus l'envie de se retrouver et de, avec vraiment ces deux mots-là, hypnose et justice, et puis de se dire, on verra bien où est-ce qu'on ira avec cette idée-là. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu à l'appel, mais au final, notre groupe, notre noyau, finalement, c'est nous quatre, donc avec Elsa, Aurélie et Tiffaine. Mais d'autres personnes nous ont aussi permis de pouvoir développer notre pensée, qui sont venues peut-être une ou deux fois et puis qui ensuite, leur vie a fait qu'ils n'ont pas poursuivi ce travail avec nous. Je voulais aussi leur faire un petit coucou et un merci parce qu'elles ont aussi grandement participé à l'élaboration de nos pensées.
Merci Camille pour cette rétrospective sur la genèse. Tiffaine, Aurélie, maintenant je me tourne vers vous parce que j'ai envie de vous demander, quand vous avez vu l'appel de Camille, qu'est-ce qui vous a attiré dans sa proposition? En quoi ça a résonné? En quoi c'était important pour vous de répondre justement à cet appel-là?
Moi, peut-être pour commencer, quand j'ai vu la première fois le message de Camille, ce qui a le plus résonné, c'est la frustration que je ressentais et qui était très très forte et d'impuissance. De la frustration, de l'impuissance et même de l'agacement de me dire oui, on a des outils en hypnose pour permettre d'imaginer des scénarios de réparation, de je sais pas quoi, mais c'est en hypnose, genre c'est pas la réalité. Et j'étais tout le temps, je me sentais juste coincée avec ça, avec cette idée de ok, on le fait en hypnose, mais c'est pas dans la réalité et ok, soit, on fait quoi de ça? Et je me sentais je savais pas quoi faire. Et du coup, voilà, cette proposition est tombée à pic. Et c'était super chouette que, voilà, que de pouvoir participer à ce groupe. Et peut-être pour développer un peu, c'est vrai que je trouve qu'en tant qu'accompagnante, on a une place particulière où on est voilà, témoin direct de l'absence de justice que reçoivent les victimes, qu'elles ne reçoivent pas du coup. Et voilà, c'était qu'est-ce qu'on fait de cette place de témoin. Voilà, avec quoi je suis arrivée.
Trop bien, merci Stéphane. Aurélie.
Alors de mon côté, j'avais discuté avec, Camille m'avait fait part de cette idée puisqu'on travaillait toutes les deux en binôme depuis déjà plusieurs mois et elle m'avait parlé de cette idée. On échangeait beaucoup sur sur nos valeurs en tant qu'accompagnante déjà à ce moment-là. Et moi, j'avais commencé aussi à m'investir en tant que militante féministe dans une association qui lutte contre les violences sexuelles au sein des couples. Et je faisais part à Camille de la frustration quand je recevais la parole des victimes sur ce déséquilibre dans lequel je me trouvais par rapport à cette notion de justice qui est souvent la première de leur recherche et face à laquelle je me retrouvais à tenir un discours qui n'était pas toujours congruent avec mes valeurs personnelles. Donc ça venait souvent moi me heurter. Et j'ai vraiment sauté sur l'occasion et je remercie Camille pour ça parce que ça m'a vraiment ouvert un espace aussi pour... Je sentais que je commençais à tourner en rond dans une forme de frustration, moi aussi, de sentiment d'impuissance. Et pouvoir ouvrir cet espace de parole et en discuter avec vous toutes, ça a quand même... Ça a énormément posé les choses pour moi, reposé les choses et recadré les choses et ça a fait beaucoup de bien.
Merci Aurélie. Et moi, c'est vrai que j'ai répondu à l'appel parce que ça fait quand même, voilà, moi, ça fait 8 ans que j'accompagne et très vite, je me rappelle très vite dans mes toutes premières années, moi, c'était très naïf, hein, je pense, à l'époque. Je me rappelle, j'en avais même fait un article de blog pour dire. Et je l'avais intitulé « Je ne pensais pas, jamais je n'aurais pensé accompagner autant de personnes victimes de violences sexistes et sexuelles ». J'avais publié cet article de blog-là. Parce que vraiment, c'était un cri de cœur, quoi, un cri de désespoir. Et je me disais « Mais what the fuck ?» Je crois qu'on était en 2019, quelque chose comme ça. Et j'avais l'impression qu'aucun de mes confrères, aucune de mes consoeurs, aucun de mes mentors, formateurs ou formatrices, en fait, n'en parlait vraiment, concrètement. Moi, j'avais même des consoeurs à l'époque qui me disaient « Mais de toute façon, la culture du viol, ça n'existe pas. » Voilà. Donc compliqué. En fait, vraiment beaucoup de sentiments d'isolement, d'incompréhension et surtout de qu'est-ce qu'on fait, parce que ces personnes touchées en fait par ça en fait existent et viennent dans nos cabinets, ils nous sollicitent. Donc ça fait un petit moment moi que je réfléchissais en fait à tout ça en fait dans mon coin. Surtout quand même à l'époque quand j'avais publié cet article, quand même, ouais, je pense qu'un jour j'en ferai un épisode de podcast. Et je m'arrête très bien quand j'avais publié cet article de blog, il avait été pas mal partagé quand même dans le monde de l'hypnose. Et j'avais eu deux réactions, enfin trois réactions principales. J'avais eu quand même des personnes qui m'ont dit merci, ça résonne beaucoup. J'avais eu autre réaction qui était oui, mais tu parles des femmes, mais quid des hommes. Voilà, genre il y avait ce truc un peu ok, très bien. Et troisième réaction, c'était la charte graphique de ton site internet ne permet pas une lecture fluide. J'ai écrit un article de blog qui pourrait t'aider en fait à mieux structurer ton site internet. Voilà, je ne citerai pas ce confrère adorable, mais c'était vraiment symptomatique. Encore des années après, je trouve que ce commentaire-là raconte énormément de choses sur cette personne et aussi sur notre société. Puisqu'il s'agissait déjà à l'époque en fait de quelqu'un qui était considéré comme l'un des grands patrons, on va dire, de l'hypnose en France. Donc c'est aussi dans cette ambiance-là que moi j'ai évolué depuis des années et des années. Donc forcément, quand j'ai vu l'appel de Camille, je me suis dit « Ah, enfin enfin, c'est cool, c'est chouette, ça va faire du bien ». Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est que là, t'as parlé, Camille, des deux mots-clés, hypnose et justice. Mais c'est vrai que très rapidement dans notre groupe, on est tout de suite parti sur hypnose et justice et, en fait, violence sexiste et sexuelle. Parce que je pense qu'on est énormément marqué par, justement, le nombre de personnes qu'on accompagne sur ces sujets-là. Et donc, c'est vrai que là, le compte-rendu qu'on va vous faire, c'est coloré de ce prisme-là, hypnose et justice, et en fait, violence sexiste et sexuelle. C'est vrai qu'on aurait pu très bien, en fait, avoir un focus beaucoup plus large, qui est hypnose et justice et injustice, parce que ça arrive aussi qu'on accompagne énormément de personnes qui, au quotidien, vivent, en fait, des situations injustes et qui viennent, justement, se réparer et traverser cette injustice-là. Mais il est vrai que là, notre focus, il est beaucoup, beaucoup sur les violences sexistes et sexuelles. Et je tenais juste à le poser pour que vous puissiez être très au clair avec notre parti pris, entre guillemets, quoi. Là, à présent, on va justement arriver sur les résultats de nos échanges, en fait, les résultats au bout d'un an. Et donc, je vous retends le micro, Camille, Tiffaine et Aurélie. J'avais envie de vous demander, qu'est-ce que ça vous a apporté, mine de rien, d'échanger sur cette thématique hypnose et justice depuis décembre 2023? Et c'est vrai que vous me connaissez, je suis une toquée des émotions. Ce qui va m'intéresser d'abord, c'est de savoir, émotionnellement parlant, qu'est-ce que ça vous a apporté d'échanger sur cette thématique ensemble?
Je dirais que moi, de mon côté, je pense que l'émotion principale, ça a vraiment été la joie. La joie d'avoir des collègues, en fait, parce que c'est quand même un métier où on est méga isolé. Et donc, la joie d'avoir des personnes avec qui pouvoir parler, mais même au-delà de ça, réfléchir. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas énormément de métiers où on a la possibilité de faire un pas de côté et de réfléchir à ce qu'on est en train de faire et de se dire est-ce qu'on fait bien. Enfin, il y a vraiment un aspect aussi un peu éthique, je pense, dans nos réflexions. Donc la joie de pouvoir réfléchir ensemble, mais aussi de créer. Alors moi, je vous connaissais toutes individuellement, mais aussi de voir du coup le groupe se créer, de créer de la confiance entre nous. Ça a été chouette. Et donc voilà, je pense que ça m'a aussi permis, au-delà donc d'une réflexion et d'une certaine assise aussi dans mon travail, de me sentir beaucoup plus à l'aise sur ce sujet-là et de venir parfois même provoquer des conversations parce que avec un accompagnement, je veux dire, parce que j'ai aussi tout ce qu'on a pu se dire, voilà, qui reste en tête. Au-delà de ça, il y avait aussi vraiment cette juste joie de pouvoir aussi se dire qu'il y aura une prochaine fois où on pourra débriefer ensemble. Et je me rends compte que j'ai aussi perdu un bout de ma pensée dans cette phrase, mais peut-être qu'elle me reviendra après. Mais voilà, c'était du coup beaucoup, beaucoup de joie, comme vous avez pu l'entendre.
Ça marche, merci Camille.
De mon côté, ça a été beaucoup de joie aussi, beaucoup de confort. Et ça, pour moi, c'est un truc hyper important. Le confort, c'est important pour moi aussi quand j'accompagne. C'est important de le créer pour les personnes que j'accompagne. Et voilà, ce groupe, ça a vraiment été pour moi un cocon de sécurité parce que, comme le dit Camille, on est quand même très isolé dans nos pratiques. Et puis, ce qu'on reçoit, ça résonne aussi. Hein. On est des êtres humains, même si on est dans un cadre professionnel, il y a quand même des choses. Enfin, moi, il y a beaucoup d'émotions qui me traversent pendant que j'accompagne et pouvoir poser tout ça, pouvoir poser ces moments de vulnérabilité, pouvoir réfléchir ensemble, pouvoir stimuler ma réflexion individuelle à travers le collectif. Voilà, ça m'a permis de dégager aussi des pistes d'évolution pour moi, pour ma pratique, mais aussi pour moi en tant qu'individu hors de mon rôle d'accompagnante. Donc, beaucoup de richesse, de confort, de sécurité et de joie. Que du bonheur, quoi.
Que du bonheur et en même temps, ça peut brasser. Hein. Voilà, on est quand même sur des sujets qui brassent énormément. Mais au moins, ça brasse en fait ensemble. Et c'est vraiment ça, je pense que de partager ça, moi, je trouve ça hyper important. Parce que moi, je me suis rendu compte finalement que tout, on avait commencé à réfléchir à ces questions-là, qu'on avait toutes rencontré des accompagnés qui nous avaient vraiment marqué, qui nous avait fait vraiment, j'allais dire challenger, mais pas dans le sens, c'est pas les personnes qui nous challengent, c'est les situations qui challengent nos formations, qui challengent nos perspectives, qui challengent en fait nos croyances. Et c'est normal et heureusement. Et c'est vrai que bah, de pouvoir partager ça et de voir comment ça résonne en fait chez les unes et les autres, émotionnellement, bah, ça soulage, ça sécurise. Donc oui, moi aussi, ça m'a beaucoup plu de pouvoir partager tous ces éléments. Et surtout, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on n'était pas forcément en train de chercher absolument la réponse parfaite ou de vraiment te dire il faut absolument que ce point-là, on l'ait réglé. Voilà, on est aussi sur quelque chose vraiment d'humain, de poser. On laisse aussi les processus se faire. C'est, voilà, on émet des hypothèses, on pose ça comme ça, on s'autorise à pouvoir le dire d'une certaine manière pour que ça puisse infuser sur une prochaine session. Voilà, c'est aussi ce côté de chemin. Voilà, c'est pas la destination, c'est vraiment le chemin. Ce que tu disais, Camille, finalement, dès le départ, quand t'as lancé cet appel, tu savais pas vraiment à quoi ça allait ressembler, dans quelle destination. Et en fait, c'est aussi agréable de travailler comme ça et de pas forcément enfermer finalement l'espace dans quelque chose, même si ça peut parfois soutenir. Mais moi, j'ai vraiment apprécié cette ouverture, cette notion de réflexion collective. Voilà, vraiment, c'était, c'est pas forcément le résultat même de ces réflexions, c'est plutôt en fait le process. Même si aujourd'hui, on va vous faire, on va vous montrer un peu où est-ce qu'on en est. Voilà, c'était avant tout en fait le processus, je pense, qui était important, et ça, je l'ai vraiment apprécié. Après, dites-moi si Camille ou Reality Fame, vous n'êtes pas d'accord avec ma perspective. J'ai l'impression que vous me dites ok, c'est bon, je dis pas des bêtises.
Moi aussi, c'est beaucoup de sécurité que ça m'a apporté. Peut-être ajouter que moi, du coup, bah, je viens du monde de l'hypnose, mais aussi de la psycho, de la fac de psycho, et que c'est un monde dans lequel je ne me sentais pas en sécurité, où j'ai pas l'impression d'avoir trouvé une communauté vraiment où voilà, où je pouvais partager une vision et des valeurs, et que là, dans ce type de groupe, bah voilà, je découvre des endroits où bah, je peux être là en tant qu'accompagnante et aussi comme humaine. Et moi aussi, ce mot-là, il est important pour moi, et que c'est vraiment très agréable et que ça fait du bien de pouvoir partager ça et de se sentir vraiment appartenir à un groupe et à un mouvement aussi. Un mouvement de fond, en tout cas le nôtre.
Moi, je trouve ça super beau, mine de rien, finalement, Camille, que tu sois autorisée à te dire « je vais faire mon truc », quoi. Et ça, je crois que c'est vraiment aussi un truc à retenir, de s'autoriser à pouvoir dire « il y a un truc qui m'intéresse, je le fais », quoi. Je sais pas comment, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais voilà, c'est de créer, en fait, ses propres mouvements, de créer ses propres réseaux, de créer ses propres groupes, de se rassembler, de se connecter... Enfin, je le dis parce que moi, ça me parle beaucoup, parce que je sais que j'ai fait cette erreur pendant des années au début de ma pratique, où j'attendais énormément que ça vienne de pairs, que ça vienne de personnes que je trouvais plus avancées sur mon chemin. Et à un moment donné, voilà, je trouve que c'est hyper important de s'autoriser à pouvoir aussi créer ses propres ressources, espaces. Voilà. Camille.
Oui, ben j'en profite du coup pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Je voulais le dire à la fin, mais j'ai envie de le dire maintenant. En fait, moi, la justice, le droit, c'est un truc qui est hyper éloigné de moi. J'ai jamais fait d'études de droit. Enfin, ça m'a jamais intéressée. Donc, sur le papier, j'avais absolument zéro légitimité à créer, à proposer en tout cas un groupe. Mais en fait, je pense que c'est justement parce que j'y connaissais rien et que je suis partie de cet endroit-là de venez entre personnes qui connaissent pas grand-chose, on se retrouve et on construit des trucs ensemble et on s'envoie des articles et on se recommande des podcasts et puis on débriefe des trucs ensemble. Et du coup, vraiment, si j'avais un message à faire passer, c'est s'il y a un truc qui vous intéresse, allez-y, proposez à des collègues, lancez un appel. Ça peut être une thématique un peu de niche, ça peut être un truc vachement plus large. Mais en fait, je pense que ça... Cet espace-là, ça valait toutes les formations qu'on aurait pu faire sur cette thématique-là, parce qu'on a créé ce truc ensemble. Et donc voilà, si parfois, parce que je sais que le syndrome de l'imposteur, impostrice, bah, ça se dit comme ça, mais on s'en fout, mais vous voyez ce que je veux dire, ça peut nous empêcher, nous paralyser de faire des trucs. Et je l'ai à plein d'endroits, sur plein de trucs, mais bizarrement, sur ce sujet-là, en fait, vu que je savais que je partais de rien, ben, c'était vraiment la possibilité de tout créer ensemble. Et voilà, s'il y a un petit sujet là, vous sentez là en écoutant, vous dites « Ah ouais, c'est vrai que moi, il y a un peu ce truc-là, peut-être qu'il n'y a rien à voir avec la justice », mais vous dites « Ah, j'aimerais bien creuser ce truc », ben franchement, allez-y, quoi. Voilà.
Trop bien, merci Camille. J'adore. On va arriver sur bah, finalement toute notre réflexion et réflexivité sur notre rôle d'accompagnant et d'accompagnante. Donc, je vais vous inviter chacune, Aurélie, Camille et Tiffaine, de prendre la parole sur, au final, bah, pour chacune, quelle serait votre perspective sur notre responsabilité et notre rôle dans tout ce système. Et quand je dis dans tout ce système, c'est non seulement le système de la société, là je précise peut-être la société française, parce que c'est particulier quand même en fait à certaines choses en France. Et quand je dis système, je parle aussi finalement du système judiciaire, de l'institution judiciaire aussi. Et comment avez-vous évolué en fait sur cette question du rôle, de votre rôle peut-être, de votre responsabilité par rapport à vos débuts justement dans le groupe?
En tout le temps, la parole en premier, je ne sais pas si quelqu'un veut y aller.
Vas-y, okay. Vas-y.
En fait, il y a eu plusieurs, choses. J'espère pouvoir bien arriver à articuler ma pensée. Sachez que j'ai des notes à côté, que tout n'est pas tout frais dans ma tête. Moi, je me souviens en fait qu'il y a vraiment eu un rendez-vous pendant lequel on a vraiment évoqué notre frustration à pas pouvoir apporter un sentiment de justice aux personnes qui en ont besoin. Ça a vraiment été une séance. On parlait beaucoup de joie, de bonheur et tout à l'heure, mais il y a vraiment eu des moments où c'est venu nous chercher hyper fort sur qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être dans l'accompagnement de personnes qui n'ont pas obtenu justice, n'obtiendront probablement jamais justice. Quelle est notre place en fait à nous là-dedans? Et en fait, il y a eu un moment, un déclic. Une personne disait, ça a été une réflexion en fait qui nous a amené à l'idée que peut-être qu'en fait notre rôle en tant qu'accompagnante, il n'est pas à cet endroit-là précisément. Je pense qu'il y a aussi un peu un truc, en tout cas si je parle de moi, un peu un truc de sauveuse quoi, de se dire oh, il faut que je l'aide, il faut absolument que cette personne elle ressorte de cette séance en ayant obtenu justice. Mais en fait, je me prends pour qui? Enfin, juste redescends, quoi. Pourquoi est-ce que ce serait moi, Camille Tissaire, qui viendrait aider cette personne à obtenir justice alors qu'en fait, tout le monde... le truc qui me vient, je suis très vulgaire, je suis désolée, mais le truc qui me vient, c'est tout le monde lui a chié dessus, en fait, depuis le début. Et pourquoi est-ce que moi, je vais venir réparer ce truc-là de manière magique grâce à l'hypnose? Et donc, il y a eu ce moment, en fait, un peu de déclic de me dire, mais en fait, je suis pas là pour être justicière. Même si on est d'accord, j'adorerais l'être. Au fond de moi, il y a une part de moi qui rêve de ça. Mais en fait, peut-être que qu'il y a un rôle en fait à réajuster et que notre place en fait à nous, elle est plus là pour écouter. Parce qu'en fait, la justice, elle est pas là pour écouter les victimes. Donc en fait, nous, on est peut-être la première personne dans tout le processus de la personne. Et si elle a eu affaire à l'institution de la justice, parce que pour beaucoup, il y a même plein de personnes qui n'auront jamais affaire à des institutions. Mais du coup, voilà, peut-être se dire, je suis peut-être la première personne à juste être là pour entendre, accueillir et ne pas remettre en question ce que la personne a vécu. Et en fait, se dire, ah ouais, déjà, c'est peut-être pas mal et peut-être que c'est juste suffisant. Parce que du coup, des choses qu'on a pu se dire, et là on le voit très bien avec du coup le procès des violeurs là de Mazan. En fait, le système judiciaire, il est extrêmement violent. Là je lisais un article de Street Press qui a été publié le 17 septembre 2024 qui du coup disait que 89% des victimes de violences sexuelles ont mal vécu leur procès. Enfin, 89%, c'est hallucinant, en fait, ce chiffre. 81% pensent que la justice n'a pas joué son rôle. Donc, quand on pose ces chiffres-là, à partir de là, on se dit, OK, peut-être qu'on va redescendre de nos grands chevaux et qu'on va juste être là pour simplement écouter. Et puis, prendre le temps aussi de demander à la personne quels sont ses besoins. Et je pense que vraiment, notre responsabilité, elle est là, notre rôle, il est là aussi. D'écouter les besoins des personnes qu'on accompagne, de pas aller plus vite que leur rythme non plus, pas prétendre savoir ce qui est bon à la place des personnes, Je pense qu'on est vraiment là pour écouter, aider à réfléchir, aider à démêler, détricoter des trucs, observer. Et puis, à terme, devenir sujet, en fait, actrice, en fait, de sa vie. Et je pense qu'aussi notre responsabilité en tant qu'accompagnante, c'est aussi de parler de manière beaucoup plus ouverte de qui on est, quelles sont nos valeurs, pour aussi proposer un cadre qui soit le plus sécurisant possible, même si on ne sera jamais des personnes 100% safe. J'allais partir sur un autre sujet, je reste là. Mais voilà, je pense que vraiment notre rôle, il se joue en grande partie, pas entièrement sur ça, mais en grande partie là-dessus, quoi.
Je fais juste une petite parenthèse, parce que c'est vrai que là, j'ai tout de suite amené la question de finalement quelle serait notre responsabilité, notre rôle dans tout ce système et comment on a évolué en fait par rapport à ça. Et en fait, c'est vrai que nos réunions ont été beaucoup focus aussi à un moment donné. Enfin, en tout cas, on a fait toute une grande partie pour reposer, déconstruire, reconstruire aussi notre vision du rôle et de la responsabilité de l'institution judiciaire. Je pense qu'on a pu reposer aussi nos rôles parce qu'on a vraiment posé des gros constats concernant justement le rôle et la responsabilité du système et surtout du système judiciaire. Et c'est vrai que là, on parlait de la notion de réparation et ça fait aussi un lien avec le titre de la table ronde d'aujourd'hui. C'est pas pour rien que je propose en fait un titre qui est en fait « Laisser la justice faire son travail ». C'est énorme, c'est quand même quelque chose dans l'inconscient collectif qui circule beaucoup, hein. Souvent on dit laissons la justice faire son travail, la justice en fait rendra en fait ses conclusions en temps et en heure, on laisse faire la justice. Mais justement, nous au sein de nos cabinets, on a bien vu qu'il y avait un souci en fait par rapport à tout ça et que on s'est posé la question, mais de quel travail on parle concrètement quand on dit en fait de laisser la justice faire son travail, et du coup quel est le nôtre? Quel est notre travail à nous? Et c'est pour ça qu'on parle de rôle et de responsabilité. Mais laisser la justice faire son travail, mais du coup, laisser aussi faire les thérapeutes leur travail, les accompagnants et les accompagnantes, mais lequel? Parce que ça, je sais, Camille, tu l'as très bien dit, on s'est vraiment rendu compte que l'institution judiciaire, en fait, n'était pas là pour les victimes. Elle est là, en fait, pour la société. Donc, qui répare, en fait? Qui fait acte de réparation? Et puis donc on a eu tout le questionnement sur qu'est-ce que contient en fait une réparation. C'est non seulement qui répare, mais aussi c'est qu'est-ce qui répare, qu'est-ce qui aide vraiment en fait à réparer. Et quand je dis réparer, c'est pas forcément la notion de il y a un truc qui est cassé, il faut le remettre en mouvement, il faut le réparer, c'est un robot, il faut changer la pièce et tout. C'est pas du tout cet univers-là quand on pose la notion de réparation, hein. C'est vraiment ce truc de je sais plus quel mot on avait utilisé, mais je sais pas qu'est-ce qui vous viendrait en fait, Camille, Tiffaine et Aurélie, mais dans la notion de réparation, c'est vraiment là on est plus dans la notion de guérison, quoi. Et encore à nouveau des guillemets en fait à guérison. Aurélie, je te passe le micro.
J'avais envie de rebondir sur ce que tu disais parce que il y a qui répare, qu'est-ce qui répare et qu'est-ce que c'est réparer. Et c'est aussi d'accepter, moi c'est quelque chose que ce groupe m'a beaucoup permis de poser, alors je suis un peu comme toi Elsa, j'ai une énergie de la colère qui est très présente, je pense qu'il y a un facteur aussi dont on parle peu et qu'il me semble important de poser ici, c'est que la grande majorité des personnes qui réfléchissent à ces notions sont des accompagnantes. On a quand même peu d'accompagnants qui participent à ces réflexions collectives. Or, les statistiques, on les connaît, donc on sait que parmi les accompagnantes que nous sommes, il y a aussi des victimes de violences sexistes et sexuelles, et que notre colère aussi, notre propre sentiment d'injustice, notre propre souffrance face à un manque de réparation peut aussi venir faire écho dans les accompagnements, et que c'est important de poser que chacun à son propre chemin de réparation. Et c'est de revenir aussi à cette position basse et de dire mon chemin n'est pas celui de la personne en face, ne sera pas celui de la personne d'après. Et d'être vraiment là pour accompagner, mais de laisser les personnes nous guider sur un chemin qui, à mon sens, doit à tout prix leur appartenir, parce que pour moi, ça fait vraiment partie du process de réparation des victimes.
Je veux bien continuer. Je trouve que, en fait, enfin,
à la fois tout ce qu'on s'est dit et là ce qu'on se dit aussi, enfin, je trouve qu'au final ça nous amène à cette espèce d'énorme paradoxe où on se retrouve à dire qu'au final, bah, enfin paradoxe, je sais pas si c'est le mot, mais un nœud où, bah oui, une de nos conclusions c'est, bah en fait notre rôle ça peut, c'est pas de rendre justice parce que de toute façon on n'a pas les capacités de le faire, on n'a pas ce pouvoir là. Donc voilà, c'est une place qui est à côté, qui est d'accompagner, qui est de répondre aux besoins, qui est d'écouter. Mais en fait, cette place, elle ferait sens, ou en tout cas vraiment sens, si à côté il existait une justice et elle n'existe pas. Enfin, et du coup, il y a ce truc de, on arrive là et maintenant, quelque part, c'est un nouveau. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Sauf que qu'est-ce qu'on fait de ça ? Il a bougé. Et je trouve que un des trucs, enfin, bon, peut-être pour répondre sur la question de notre rôle. Ben voilà, un des trucs qui est une constante, je pense, du début jusqu'à la fin, c'est de rester sur le fait que ce qui est important, c'est de se former sur les questions de violence sexiste et sexuelle, et de s'engager, en effet, d'avoir un accompagnement sur ces questions-là qui n'est pas neutre, et qui est activement soutenant. Je pense que, justement, dans un endroit, dans cette société où, ben voilà, les victimes, elles n'obtiennent pas justice, et où elles portent sur leurs épaules, enfin, où on porte, on peut le dire aussi, sur nos épaules collectivement le poids de la honte, la culpabilisation de la société, bah nous on a besoin d'être actifs et c'est pas juste on écoute quelque part, enfin si on écoute mais c'est une écoute qui est soutenante et qui est on est de votre côté et voilà, enfin il y a un côté un peu dans ma tête, il y a un peu un côté de cheerleader même si c'est pas, ça, parfois c'est pas du tout sur ce voilà cette ce ton là on va dire. Mais je pense que ça c'est voilà, c'est un truc qui était déjà là et qui est encore là. Et après, je pense que c'est Elsa qui en a parlé à un certain moment, et moi, je souscris totalement à ça. C'est que, du coup, on a cette place qui est très particulière, qui est cette place de témoin. Et moi, mon envie, ce serait que cette place de témoin, elle soit entendue pas que là, dans nos cabinets, et qu'il puisse y avoir des organisations, en fait, d'accompagnantes, qu'il puisse y avoir une politisation, en fait, de nos métiers, mais pas que, parce que nous, on est politisés, qu'on se dit politique, qu'on a un accompagnement qui est politique, ce qui est déjà trop bien et ce qui manque. Mais si nous, on pouvait aussi s'organiser politiquement et devenir, voilà, une force politique. Moi, je rêve de manifestations d'accompagnantes, de syndicats d'accompagnantes, et je pense que ça peut être un rêve, en tout cas, de mon côté. Et un truc qui permettrait que, voilà, on soit pas juste des témoins dans notre coin de ce qui se passe.
Merci Stéphane, merci d'amener la notion de rêve justement, parce que c'est vrai que quand on parle de finalement quelle serait notre responsabilité, notre rôle dans tout ce système, c'est vrai qu'on peut parler en fait d'une évolution qu'on a eue là en ce moment T, là, espace-temps 2023-2024, mais ce groupe là va poursuivre, va faire sa rentrée dans les prochains jours, on va continuer à évoluer. C'est vrai que là tu parles de ton rêve Stéphane, de ta perspective, j'ai un peu envie de me tourner aussi vers vous deux, Aurélie et Camille, de vous interroger sur vos rêves, vos visions finalement, la suite de ça, maintenant que vous êtes sur ce point là de responsabilité, de rôle en fait dans tout ce système, ouais, vous regardez dans quelle perspective, vous regardez de quel côté?
Je veux bien prendre la parole. Moi, je rejoins Tiffaine sur le fait que je rêve qu'il y ait beaucoup plus de structures collaboratives pour les accompagnants. Alors un peu peut-être sur le modèle des maisons des femmes, par exemple, mais ces espaces de réflexion, de soutien collectif, à mon sens, ils sont essentiels pour tout le monde, pour nous, pour pouvoir poser des choses, pour pouvoir se sentir moins seul, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi s'ouvrir. Là, tu disais qu'on a beaucoup pris le prisme des violences sexistes et sexuelles, mais moi, dans les réflexions qui ont nourri notre groupe, il y a aussi eu des moments qui m'ont amené à me dire « Ah bah tiens, sur ces oppressions-là, je sens que j'ai clairement un travail à faire. Je sens que là, il faut que j'aille creuser ce sujet-là parce que je sentais bien que c'était important. Donc, ça permet aussi d'ouvrir nos propres prismes et de pouvoir être, comme le disait Camille, on n'est jamais 100% safe, mais en tout cas d'essayer d'apporter des espaces les plus sécures possibles et d'essayer de ne pas contribuer à reproduire les oppressions qui nous rendent totalement vénères.
Merci Aurélie, Camille.
Essence collective, donc c'est le, pour les personnes qui connaissent pas, c'est l'espace de supervision collective que qu'Elsa propose. Elle nous a, du coup, Elsa, tu nous avais fait réfléchir à nos rêves en tant qu'accompagnante. Et en fait, je crois que j'ai le même là, à cet endroit-là. Les accompagnements, en fait, que ce qu'on propose, ce soit pris en charge. En fait, que les gens, ils aient pas à payer de leur poche pour venir nous voir. Alors, je sais pas, une sécu, une mutuelle, une organisation citoyenne, j'en sais rien, plein de choses qui pourraient exister. Mais même au-delà de ça, que les accompagnantes, eux, puissent être salariés, en fait. Qu'on soit plus dans ce truc à chercher à développer notre business. En fait, que toute notre énergie, elle soit placée ailleurs que dans l'entrepreneuriat. Ce serait le rêve. Pour que, en fait, on ait le temps de réfléchir, qu'on puisse s'organiser autrement, qu'on puisse travailler ensemble. Parce qu'on pourrait vraiment créer des équipes pluridisciplinaires. Et du coup, enfin, ouais, je pense qu'il y aurait plein de choses à faire et que notre énergie, vraiment, elle soit concentrée à lutter contre les oppressions systémiques, en fait. Et ça, ce serait vraiment stylé. Et au-delà de ça, ce qui me ferait aussi rêver, c'est qu'on puisse aborder les oppressions systémiques. Là, aujourd'hui, on parle de violences sexuelles. On pourrait parler de violences policières aussi, en termes d'injustice. Ça se place là, quoi. C'est juste gigantesque. C'est une rage supplémentaire, l'impunité. Qui existe autour des violences policières. Mais il se trouve que, en tout cas dans ma pratique aujourd'hui, je pense que c'est lié aussi au fait que je suis une thérapeute blanche, c'est pas des thématiques que j'accompagne. Je pense qu'il y aurait vraiment plein de choses à aborder dans les formations au départ, que ce soit en psychologie, que ce soit formation à l'hypnose ou j'en sais rien, que tout le monde en fait puisse avoir un espace de formation de réflexion sur ses privilèges, de se remettre en question, un peu de psychologie sociale, enfin, vraiment de... Et puis, ouais, de pouvoir aussi entendre la parole des personnes concernées, parce que notamment dans le milieu de l'hypnose, mais on en reparlera quand on parlera d'hypnose pure et dure, c'est vraiment un boys club qui est insupportable, en fait, et ils se remettent pas du tout en question sur leurs privilèges, et du coup, je me dis que peut-être que si c'était intégré dans la formation, ça passerait mieux parce que ça viendrait pas des femmes. Ça viendrait d'ailleurs et peut-être que là, ils pourraient nous écouter. Mais ouais, il y a plein de rêves, il y a plein de choses qui sont hyper enthousiasmantes dans des perspectives d'évolution pour des accompagnements qui soient plus justes aussi et puis qu'en tant qu'accompagnante, on puisse aussi être... je sais pas, peut-être moins isolé, plus intégré à d'autres types de métiers, peut-être même aussi, voilà, je sais pas, être en lien avec des avocats, des avocates, la police, pourquoi pas, voir quel est son point de vue là-dessus, mais ça, voilà, il y a plein de choses à aller à développer en tout cas, plutôt que de travailler seul dans son coin. Voilà.
Vas-y Aurélie.
Ouais, je veux bien rebondir parce que ça commence à se faire. Alors souvent il faut que la démarche vienne hein, de personnes qui sont investies de militantes mais ça commence à se faire. Je sais que dans mon département, donc moi je suis en Côte d'Or, je suis à une vingtaine de minutes au nord de Dijon, le CIDFF de Dijon, donc le centre d'information à destination des femmes et des familles, a mis en place là une structure d'accueil qui s'appelle Avive, donc une structure d'accueil à destination des victimes, où justement une juriste et une thérapeute féministe travaillent ensemble à l'accueil des victimes. Donc ça commence à bouger. Petite touche d'optimisme.
Ouais, merci pour cette graine d'espoir. Non, c'est hyper important là tout ce que vous posez concernant les rêves. Moi, c'est vrai que là, Tiffaine, t'as bien dit. Hein. Moi, clairement, moi, mon rêve concernant en fait toute cette thématique-là, surtout sur l'injustice, la notion de justice et les violences sexistes et sexuelles, moi, c'est clairement qu'il y a un rapport de force qui change. Je pense que c'est ça, en fait. C'est vraiment parce qu'il y a une forme quand même de domination très, 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 très forte hein, concernant l'institution judiciaire et ses membres, les avocats, les avocates, surtout de la défense. Là, on voit très bien à nouveau hein, avec le procès Pellico. Moi, c'est vraiment, j'aimerais bien qu'il y ait un rapport de force en fait qui bouge, qui change, que aussi dans l'espace public, la parole des personnes victimes puisse être respectée totalement, que leur vécu en fait aussi puisse être respecté, parce que j'ai l'impression que sinon, si ça ne bouge pas, ça va nous entraîner collectivement du côté des accompagnants et des accompagnantes, et même de, du coup, nos accompagnés, dans ce qu'on fait en fait depuis des années, qui est que on est un refuge pour les personnes victimes. C'est bien, c'est ultra important puisqu'il n'y a que ça en fait qui, comme ressource qui est disponible, hein, enfin, globalement. Mais on voit bien déjà que ça ne suffit pas et qu'en plus, ce n'est pas normal, quoi. Vraiment, c'est vraiment ce truc basique, en fait. C'est un peu cucul après quand je dis ça, mais c'est vraiment, ce n'est pas normal, quoi. Et donc, moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait un rapport de force qui bouge. Et j'ai, voilà, ce que tu parlais, Tiffaine, de collectif d'accompagnants, de manifs, mais de, voilà, que t'aies, y ait des groupes de réflexion, voilà, qui soient. Mais moi, je parle de lobbying, en fait. Là, je parle vraiment de lobbying, de faire changer la loi, de faire changer les institutions, que ce qui se passe dans nos cabinets ne reste pas, en fait, forcément dans nos cabinets. Alors, bien évidemment, bien sûr, si, pour la confidentialité, tout ça, mais. Comme on a parlé d'être témoin, on est témoin quand même de l'état de notre société et du rapport de force et de domination qui existe, mais on n'en parle pas en fait. Du coup, on reste dans ce truc où finalement, sans le vouloir, on est en train de continuer à nourrir le système, on est en train de continuer à faire en sorte que le système il puisse perdurer parce que on prend en charge les personnes victimes et en gros, on les aide à se remettre en mouvement. Quand on peut, finalement, c'est possible. Et puis pour les autres, on les laisse sur le bas de la route, quoi. Et puis le système continue. Moi, il y a ce rêve de, c'est un rêve de révolution, quoi. Comme d'hab, quoi. C'est un rêve de révolte. Mais que moi, je n'ai plus du tout envie, en fait, d'alimenter ce système-là, quoi. Et je me dis, et même pour ma santé mentale, c'est peut-être égoïste, mais même pour ma santé mentale et émotionnelle, à moi, je ne sais même pas, en fait, pendant combien de temps encore je vais réussir à être cette accompagnante-là si les choses ne bougent pas. Donc, bien évidemment, il y a des choses, on peut se former, on peut être toujours la meilleure accompagnante du monde dans nos propres cabinets, mais je pense aussi que moi, mon rêve, c'est qu'il y ait des choses aussi qui se passent en dehors de notre cabinet, collectivement aussi, qu'il y ait des rassemblements, des groupes de réflexion, et à nouveau, je pose le mot lobbying. Voilà, c'est vraiment ça, en fait, mon rêve à moi. Aurélie, je te redonne le micro.
Oui, il y a... Dans l'institution judiciaire, il y a un truc que tu n'as pas cité et sur lequel j'ai vraiment envie de rebondir parce que c'est un truc qui me rend particulièrement enragée, ce sont les expertises psy. Dans le cadre des procès, les expertises psy sont d'une violence inouïe. Et donc, c'est vraiment la double, triple, quadruple peine pour les victimes. Parce que en plus de ne plus pouvoir poser leur confiance dans la justice, à l'endroit de l'expertise, à l'endroit où elles sont censées pouvoir avoir un temps d'écoute, un temps, elles se retrouvent de nouveau violentées, de nouveau traumatisées, et parfois ça les bloque complètement. Et ça se comprend, ça s'entend parfaitement dans le fait d'aller rechercher derrière un nouvel accompagnement, et ça les enferme encore plus dans la honte, dans le silence, dans la solitude. Et ça, alors ça, moi, pour le coup, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel un lobbying est essentiel, parce que je trouve ça inadmissible, inentendable, que les expertises psy dans le cadre de la justice soient aussi violentes. Voilà, j'avais envie de le poser.
Vas-y, Camille.
Justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Aurélie, il y a un épisode de podcast de Un podcast à soi qui s'appelle Au procès des folles et qui donne envie de brûler des trucs, clairement. Moi, il m'a mis dans une rage dingue cet épisode. Il est hyper intéressant. Et puis, on voit du coup aussi à cet endroit-là que c'est pas parce que une psy est une femme que c'est forcément une bonne personne. Et je pense que s'il y a bien un truc que j'ai appris en étant dans l'accompagnement, c'est bien ça, c'est que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est quelqu'un de bien. Avant, je le croyais, c'était hyper rassurant, et puis non. Donc il y a déjà cet élément-là, et puis on le voit là, par exemple, dans le cadre du procès des violeurs de Mazin, Gisèle Pellicot, on essaye de lui trouver tout un tas de trucs. On l'a accusée d'être alcoolique, pour venir expliquer tout un tas de trucs chez elle. Enfin, c'est là, ce procès-là, ce qui est en train de se jouer, on voit vraiment toute la violence de la justice qui ça se déroule en fait sous nos yeux et du coup, enfin, je sais pas si on peut la remercier d'avoir voulu que ce procès se passe pas à huis clos, qu'on puisse savoir en fait ce qui se passe, que tout le monde sache en fait que notamment les avocats de la défense posent comme question, ou même du coup. Même si on n'avait pas accès à ça, on a la chance d'avoir accès aux stories des avocats de la défense qui sont à Gerbet aussi. Du coup, ça nous permet vraiment, là, c'est vraiment un cas d'école et c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de se retrouver, nous, avant de faire vraiment une session et ce sera, du coup, notre rentrée va se faire autour du procès pour continuer à développer nos réflexions autour de l'hypnose et de la justice. Parce que là, vraiment, on a vraiment le pire de ce que l'humanité est capable de produire en termes de justice qui se déroule sous nos yeux, écrit dans tous les articles de journaux. Voilà ce que j'avais à partager là-dessus.
Moi, je trouve ça hyper intéressant que tu précises ça et qu'on fasse le lien en fait, vraiment avec les avocats et les avocates, quoi, que ce soit de la défense. Ou autre, ou même de toute manière tous les membres en fait de l'institution judiciaire, parce que c'est vrai que moi à nouveau je reviens sur cette déconstruction de la justice avec un J majuscule. Moi je trouve que ça a été hyper pertinent et que vraiment j'invite toutes les accompagnantes et accompagnants à faire ce travail-là, parce que en fait au passage quand on imagine que la justice J majuscule, même ça introduit en fait finalement notre discussion autour de l'hypnose et la justice, mais ça pourrait être intéressant justement de travailler sur nos représentations symboliques internalisé de la justice, J majuscule et J minuscule. Et mine de rien, moi, tout le travail qu'on a pu faire ensemble m'a fait prendre conscience à quel point j'avais internalisé vraiment la justice J majuscule comme une institution judiciaire vraiment intouchable. Voilà, j'ai quand même des représentations assez fortes, hein, d'une statue en marbre immense, inatteignable, mais en fait globalement inhumaine. Et en même temps, elle est dans le cambouis humain, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc, c'est la seule autorité, finalement, vers laquelle on peut se tourner pour obtenir justice, le J minuscule. Et on oublie que, finalement, cette institution judiciaire, elle est construite et alimentée, en fait, par les êtres humains. Enfin, là, c'est ce que disait, en fait, Camille, par rapport aux avocats et aux avocates de la défense qui sont mais, à GRB. On est vraiment sur cette notion que c'est des personnes, en fait, humaines. Et donc, par conséquent, elles sont faillibles, elles ne sont pas neutres, elles sont parfois en fait violentes voire maltraitantes. Vous voyez, je trouve qu'il y a du coup des ambivalences et des injonctions contradictoires et que si on n'y fait pas gaffe, on se prend tout ça dans la figure et on peut très vite rentrer dans des accompagnements. On se fait en fait rouler dessus par toutes ces notions, alors qu'il y a une personne en face de nous qui a besoin d'aide et qui a besoin vraiment en fait qu'on lui donne un cadre en fait sécure pour pouvoir déposer elle en fait tout ce qu'elle a déposé par rapport à elle-même, comment ça brasse et comment ça résonne. Enfin, tout ça pour dire que tout ça c'est une sacrée construction humaine et je pense qu'on a tendance en fait à l'oublier et que c'est hyper important en fait de le rappeler. Et donc, ça fait un lien finalement avec cette notion d'hypnose et justice. J'avais envie qu'on revienne un peu sur le focus de l'hypnose. Finalement, chacune, qu'est-ce que ça a révélé pour vous, cette thématique hypnose et justice et cette tout ce travail qu'on a pu en fait poser autour justement de l'outil de l'hypnose, de la pratique en fait de l'hypnose en cabinet sur ces notions-là. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui?
Un truc qu'on s'est dit et moi qui m'a fait du bien, c'est que je pense en tout cas moi j'ai partagé cette vision de l'hypnose où l'induction et la transe profonde n'est pas au centre de nos préoccupations, voire même on a à cœur, je crois toutes, de prioriser la liberté et le consentement des personnes qu'on accompagne. Et moi ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir partager ça et de me rendre compte que je suis pas la seule à faire des inductions assez courtes parce que les états de conscience modifiés dans lesquels sont mes accompagnés, ils sont très légers souvent, Et je trouve que ça va à l'encontre de plein de choses qui sont véhiculées dans le milieu de l'hypnose, où il y a un peu un truc très masculin au fond, mais sur voilà, il y a un truc autour de la valorisation de voilà d'une transe profonde, des outils d'induction, et que nous notre focus il se place ailleurs. Et ça c'est un truc moi qui m'a fait du bien de me sentir plus légitime là-dessus, dans des moments où je pouvais me dire oh là là, est-ce que ce que je fais presque, est-ce que c'est de la vraie hypnose. Je pense que je me suis retrouvée à me dire des trucs comme ça, parce que moi mon focus il est pas là, et de trouver des gens qui sont d'accord pour dire bah oui c'est de la vraie hypnose, mais en effet le focus il est pas là. Donc peut-être voilà pour commencer sur la question de l'hypnose.
Merci Stephen.
Mais je reprends, je poursuis là-dessus parce que vraiment moi ça a été un soulagement incroyable d'avoir cette conversation. Mais c'était pas, on n'est pas arrivé à ça tout de suite. Ça a mis plusieurs séances. Et puis au bout d'un moment on dit oui mais toi l'hypnose comment ça se passe ? Et puis en fait on se rend compte qu'on fonctionne toutes pareilles, du coup avec des inductions courtes, une transe assez légère. Et puis en fait un ras-le-bol de ces discussions de mécaniciens de l'hypnose, de techniques, de machins. Non mais vous, est-ce à quel pourcent, enfin des conversations mais hors sol en fait. Je trouve qu'ils ont vraiment aucun intérêt pour les personnes qu'on accompagne en fait, pour vraiment se focaliser sur ce qu'on veut apporter aux personnes. Donc ça m'a fait vachement bien de me dire qu'en fait j'en avais vraiment rien à foutre de cet aspect-là et que j'étais pas la seule. Et puis de se dire ok en fait pareil parce que c'était quand même rassurant parce que moi aussi il y a eu un moment où je me suis dit mais peut-être qu'en fait il faut que je change de mot, peut-être que je mens en fait aux gens quand j'utilise le mot hypnose. Et puis en fait de pouvoir aussi comprendre à travers les mots des autres, notamment il me semble que c'était toi Aurélie qui disait mais moi je veux pas amener les gens dans un état d'hypnose trop profond, on vient travailler des sujets qui sont tellement durs. Il faut que la personne, elle puisse sentir que si elle veut sortir à n'importe quel moment de l'état, elle peut. Et quand elle a dit ça, ça a fait... Il y a un truc qui s'est vraiment déclenché dans ma tête. Je me suis dit, ah, mais oui, mais trop, trop intéressant. En fait, je ne l'avais pas analysé comme ça, mais en fait, ça fait vraiment sens. Et donc, finalement, on a pas, dans nos réflexions autour de l'hypnose, du coup, dans Hypnose et Justice, on a assez peu parlé technique. On est plus venu parler, du coup, d'imagination. De quelle place est-ce qu'on laisse à ça, et de venir questionner la personne sur qu'est-ce que c'est la justice pour elle. Enfin voilà, il y avait tout un tas de réflexions qu'on a eues, mais on n'en ressort pas avec un nouveau protocole en 8 étapes de voilà comment on aide quelqu'un à obtenir justice. et ça, c'était chouette aussi. Ça m'a vraiment fait du bien, en fait, vraiment sur l'aspect pratique pur. Ça, c'était vraiment très précieux comme échange.
Ouais, je rebondis aussi là-dessus parce que je trouve que ça a vraiment permis de remettre l'église au centre du village et de remettre l'accompagné au centre de l'accompagnement. Et effectivement, je reviens sur le terme de boys club que tu utilisais tout à l'heure, Camille, mais moi, ça me rendait ouf. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis partie de quasiment tous les groupes d'hypnose, parce que je suis désolée, mais la version hypno de celui qui pissera le plus loin, moi ça me fatigue, franchement les gars, à un moment lâchez-nous, on s'en fiche de savoir si votre transe elle est somnambulique, machin, ok, si ça vous rassure, ça parle de vous en fait, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Et oui, on accueille des gens, on parle là d'hypnose et justice, mais on est souvent dans l'hypnose et justice dans le cadre de hypnose et trauma, souvent. Et on a quand même, moi j'ai vraiment ce besoin que les gens puissent se sentir en sécurité, puissent sentir qu'ils gardent le contrôle. Alors c'est aussi quelque chose que moi je projette parce que j'ai trouvé que l'hypnose était un outil formidable sur le travail des traumas, et je le dis souvent, j'aurais adoré découvrir cet outil-là plus tôt. Et je pense que voilà, il y a bien des traumas de mon vécu à moi que j'aurais aimé pouvoir travailler plus tôt en hypnose, parce que je trouve que vraiment c'est un outil qui rend tellement la créativité aux gens, et la possibilité du coup de créer avec notre soutien et notre accompagnement leur propre parcours de réparation. Je trouve ça génial. Je trouve que l'outil il est merveilux, mais ça reste un moyen, c'est pas une fin en soi. Et ça a beaucoup permis, nos discussions ont beaucoup permis de décomplexer ça et de dire bah en fait on s'en fout. Moi, je m'en fous de savoir si je coche toutes les cases du formulaire du bon hypno selon tel ou tel centre de formation ou tel compte référent de ce qu'est et doit toujours être l'hypnose. Moi, l'important, c'est que j'accompagne la personne que j'accompagne et que ça soit bon et OK pour elle, quoi.
Exactement. J'entends elle a beaucoup la notion de co-construction aussi, finalement, dans tout ce qu'on dit. Hein. Et en effet, moi je suis complètement raccord avec tout ce que vous venez de dire. Que moi, de toute façon, ça a été tout un travail de déconstruction de ma pratique pendant des années, de replacer en fait l'hypnose comme un outil qui fait partie de ma trousse à outils d'accompagnante, mais que avant tout, ce qui se passe en fait, c'est la rencontre et la relation avec la personne, et que on sait très bien que c'est souvent ça en fait qui est absolument d'abord en fait thérapeutique plutôt que les outils derrière. Et que les outils, en fait, sont des supports, des soutiens, des moyens, comme tu disais, en fait, Aurélie. Mais, ouais, moi, c'est vrai que, comme disait Tiffaine au tout début, et Camille aussi, il y a vraiment ce côté où ça a été soulageant, de se dire, ah, parce que c'est quand même des questions qui sont assez taboues, hein. Mine de rien, on va pas se mentir. Mais pour autant, voilà, moi aussi, comme ce que tu disais, Aurélie, je pense que l'hypnose reste un outil formidable. Et que justement, si on était plus autorisé à sentir à l'aise avec le fait que c'est un outil, eh ben je trouve que ça pourrait aussi collectivement le repositionner comme qu'est-ce qu'on décide d'en faire, dans quelle vision, dans quelle perspective, au service de quoi finalement. Oui, au service de notre accompagnement, mais finalement au service de quelle philosophie de travail, quelle philosophie en fait d'accompagnement, quelle philosophie finalement de vie. Et c'est tout ce que ça rejoint sur notre notion de rôle et de posture beaucoup plus large, mais en tant que praticien ou praticienne en hypnose ou autre outil, mais aussi en tant que personne humaine. Donc, quel est, en fait, finalement, quel est notre rôle et notre posture? Et c'est vrai que tu vois ce que tu dis, Camille, on n'est pas arrivé, en fait, à la conclusion et à la création d'un protocole en 8 étapes pour aider quelqu'un à obtenir justice. Parce que je pense que, en fait, c'est une histoire qui, c'est impossible d'arriver sur un protocole unique. Et en même temps, je pense que là, parce que notre groupe, il n'y a que un an, mais je pense qu'il y a énormément, quand même, beaucoup de choses à faire, à créer pour justement poser des processus d'accompagnement en lien avec cet outil-là, proposer des nouveaux cheminements, des nouveaux supports hypnotiques. Rien que ce que j'ai nommé, en fait, par exemple, tout à l'heure, moi, j'ai déjà, en fait, accompagné des personnes sur la notion de la représentation symbolique de la justice. Bon, justement, elles disent que c'est pas juste ou c'est injuste. De prendre le temps de vraiment écouter et d'aller en fait en hypnose rencontrer cette notion-là, ça peut être très très éclairant pour la personne en elle-même. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand elle dit ça? Elle va rencontrer des parts d'elle, des êtres en fait à l'intérieur d'elle-même qui ont des messages en fait à poser par rapport à ça. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, et moi j'ai aussi ce rêve et j'ai l'ambition que ce groupe-là, ce groupe de travail-là, ce groupe de réflexion, il puisse très bien sortir un livre, un de ces quatre, d'accompagnement, où peut-être qu'il n'y aura pas le protocole unique de 8 étapes pour aider quelqu'un à obtenir justice, mais il y aura un état des lieux, une ouverture du champ des possibles de tous les processus, de tous les éléments en fait qui peuvent être intéressants à poser justement en accompagnement, et dire bah voilà, peut-être qu'il n'y a pas un truc linéaire en fait à faire, mais vous pouvez aller regarder de ce côté-là, vous pouvez regarder de ce côté-là, et l'hypnose est un moyen pour y aller en fait de manière sécure, de manière intéressante, de manière en fait aussi humaine et co-construite en fait aussi avec les personnes qu'on peut accompagner. Parce que je pense que vraiment, il y a encore plein de choses en fait à créer sur les thématiques de réparation, de justice, d'apaisement, de libération, parce qu'on aura enfin posé en fait ces termes-là au centre de nos accompagnements et qu'on sera au clair avec cette philosophie de travail, cette conviction, cette vision de la vie. Finalement, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus global que juste ce qui se passe sur une séance, et que, à mon avis, voilà, ça pourra vraiment être un support collectif hyper intéressant, hyper fort, pour qu'on puisse aussi révolutionner. Ces pratiques d'accompagnement et que voilà, qu'il y ait des choses en fait vraiment qui se poursuivent en lien avec ce qu'on disait, hypnose et trauma et au-delà, quoi. Je sais pas comment vous sentez, Aurélie, Camille, Tiffaine, quand je pose le fait qu'on va écrire un livre bientôt.
Au taquet.
Un livre, un espace de formation, d'échange entre collègues, carrément, quoi. Carrément.
Allez. Zou.
Et Et voilà la team de Turfu, c'est tout pour cet épisode d'accompagnante. J'espère que vous avez kiffé autant que moi et que vous repartez avec votre dose de power. Rappelez-vous, accompagnante, c'est un podcast et c'est aussi un espace, une communauté qui a besoin de votre force pour grandir. Alors pensez bien à vous abonner au podcast et à laisser une note et un avis sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est totalement gratuit, mais votre soutien n'a pas de prix pour moi, alors vraiment merci. Merci en fait de prendre ce temps-là. Et si vous voulez soutenir Accompagnante par le pouvoir de l'argent, vous pouvez le faire via un don libre, c'est totalement possible. Je vous mets le lien de la cagnotte en description. Et d'ailleurs, en description, vous pouvez aussi retrouver toutes les ressources mentionnées dans l'épisode. Et pour aller plus loin, c'est sur mon site internet, elsacoutillier.com. La team, si vous avez aussi envie de partager vos tilts concernant l'épisode, si vous avez des questions, des idées de sujets ou des invités que vous aimeriez entendre dans de futurs épisodes, vous pouvez me contacter sur Instagram à @elsacoutillier. En attendant, continuez à repolitiser votre pratique d'accompagnement et à être les véritables révoltés dont le monde d'aujourd'hui a besoin. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'accompagnante. Je vous dis à plus dans le bus de la révolution et prenez bien soin de vous.
Et de repolitiser vos chemins d'accompagnement et changer le monde.
Je vais monter le volume ensemble.
On va donc déconstruire les normes.
Et je veux que ça change.